Vous êtes avec SBS French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre émission du samedi 19 juillet 2024. Je m'appelle Marianne Murat, nous allons passer une heure ensemble et comme tous les samedis, on commence avec la rétrospective.
C'est la rétrospective du jour et on va parler du Tour de France en 2025. C'est la fin de la deuxième semaine du Tour de France déjà, encore une semaine. Mais là, on va faire un saut dans le passé. On va remonter au premier Tour de France. Le premier vainqueur du Tour de France, c'était le 19 juillet 1903. Il s'appelle Maurice Garin et il est donc devenu le premier vainqueur du Tour de France en 1903. Un récit surprenant truffé d'anecdotes de François Vantôme.
Originaire d'Arvier, en Italie, Garin est né en 1871. Petite taille et constitution frêle, caractérisant cet enfant et selon la légende, ses parents auraient utilisé ses traits pour l'introduire clandestinement en France avec la promesse d'un emploi de ramoneur. En France, ce jeune garçon va rapidement se faire connaître sous le surnom de Petit Ramoneur. Bien qu'il ait passé plusieurs années à travailler comme ramoneur, Garin a également exercé le métier de livreur dans le nord de la France. Comme c'était courant à l'époque, il a commencé à effectuer ses livraisons sur une bicyclette. C'est ainsi qu'il réalise qu'il a une réelle aptitude pour le cyclisme. Non seulement il se découvre agile sur son vélo, mais il développe également une véritable passion pour le sport. Sa carrière cycliste prend un tournant en 1890 lorsqu'il participe à sa première course. Toutefois, cette compétition n'était ouverte qu'aux cyclistes professionnels. Déterminé et désireux de prouver sa valeur, Garin ne se laisse pas décourager et entre dans la course peu après le départ officiel. Avec une incroyable démonstration de talent et de rapidité, il parvient à dépasser tous les autres concurrents et finit par gagner la course. Cette victoire est toutefois assombrie par sa disqualification car il n'était pas un participant officiel et il ne reçoit donc pas le prix de 150 francs qui lui revenait. Entre 1892 et 1903, Garin participe également à une série de compétitions totalisant 11 courses en Italie et en France. Il se classe parmi les 10 premiers dans 8 de ces épreuves et sa victoire au Paris-Roubaix en 1898 le propulse sur le devant de la scène cycliste. Cependant, le cyclisme de l'époque se déroule généralement sous la forme de courses d'un jour. Quelque chose de révolutionnaire est sur le point de changer cela. La naissance du Tour de France. En 1903, le Tour de France est organisé par le journaliste Géo Lefebvre, qui espère que cet événement relancera les abonnements à son journal L'Auto, alors en difficulté. Accompagné par Henri Desgranges, ancien champion cycliste et rédacteur en chef du journal, il met en place une épreuve inédite sur 19 jours, avec un parcours atteignant 2428 km à travers la France. Le prix de 3000 francs représente alors près de 3 fois le salaire annuel moyen, ce qui attire de nombreux coureurs amateurs et professionnels. Le parcours s'étend sur 6 étapes, chacune d'une distance impressionnante, atteignant parfois 400 km. Contrairement aux standards modernes, les cyclistes de cette première édition roulent individuellement. L'absence d'équipe signifie qu'ils ne peuvent pas compter sur des véhicules de soutien et doivent donc gérer leurs propres réparations le long du chemin. Sur les routes non pavées, Garin, en tant que compétiteur aguerri, s'associe à plusieurs autres coureurs dans un groupe connu sous le nom de La Française, bien que les équipes soient interdites. Cependant, lors de la cinquième étape, des tensions apparaissent. Garin, déjà en tête, annonce à ses compagnons qu'il compte gagner cette étape également. Un autre concurrent, Fernand Augereau, lui oppose une réplique inattendue. « Pourquoi devrais-je te laisser gagner ?» Sous pression, Garin en vient même à suggérer à l'un de ses compagnons de déséquilibrer Augereau. Bien qu'Augereau soit perturbé, il réussit à se remettre en selle et à continuer. Déterminé à s'assurer la victoire, Garin entreprend des actions encore plus discutables pour le faire échouer. Dans un acte désespéré, Maurice Garin s'empare du vélo d'Augereau et commence à le démolir, rendant le vélo totalement inutilisable. Malgré ses actes de tricherie, Garin remporte le premier Tour de France, mais cette victoire rencontre des réactions mitigées car son mépris pour les règles passe souvent sous silence. La tricherie devient plus répandue lors du deuxième Tour de France. Les courses nocturnes facilitent les fraudes, au point que certains coureurs jettent des obstacles sur la route, tandis que d'autres empruntent des trains pour sauter d'une ville à l'autre. Des spectateurs attaquent même les adversaires de leurs favoris. Au moment de la dernière étape, une tempête de pluie frappe Paris. Et bien qu'Hippolyte Aucouturier soit désigné vainqueur de l'étape, c'est Garin qui reste en tête au classement général. Cependant, une enquête sur les plaintes concernant la tricherie aboutit à la disqualification de Maurice Garin et de 11 autres participants. Refusant de reconnaître sa disqualification, il continue d'affirmer qu'il est le vainqueur légitime des deux tours. Même après cette controverse, il reste une figure emblématique qui fascine et déroute. Après sa carrière sportive, Garin se réinvente et ouvre une station-service qui devient un lieu populaire pour les automobilistes amusés par ses anecdotes sur ses exploits. Il produit et vend également ses propres modèles de vélo. Maurice Garin passe ses dernières années à partager sa passion du cyclisme avant de décéder en 1957 à l'âge de 85 ans.
C'était Louane avec la chanson « La pluie ». Depuis dimanche dernier se déroulent les exercices Talisman Saber, une opération militaire conjointe entre l'Australie et les États-Unis à laquelle participe la France. Nous en avons discuté avec deux généraux et l'ambassadeur.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Je suis en ligne avec Monsieur l'ambassadeur de France en Australie, Pierre-André Humbert, avec le général Latil et avec le général Ozanne. Bonjour messieurs.
Bonjour madame.
Bonjour, bonjour.
En ce moment, depuis aujourd'hui, depuis ce 13 juillet, c'est l'exercice, on va le dire en anglais, Talisman Saber 2025. C'est un exercice militaire bilatéral majeur entre l'Australie et les États-Unis, initialement. C'est un exercice conjoint entre ces deux nations. Ça combine des activités terrestres, aériennes, maritimes, spatiales, cybernétiques. Le tout est axé sur le combat multidomaine. Messieurs les généraux, vous êtes basés en France, vous êtes basés en Nouvelle-Calédonie. L'exercice se déroule sur plusieurs zones, ça se déroule où exactement ?
Alors cette année, pour la première fois, il a une zone étendue au-delà de l'Australie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, pour une partie de l'exercice. C'est assez nouveau, mais sinon il est essentiellement focalisé sur l'Australie et autour de l'Australie, dans ses eaux les plus proches. Et nous participons sur la partie australienne et approche maritime de l'Australie.
Alors, je rebondis tout de suite sur la Papouasie-Nouvelle-Guinée, puisque vous en parlez. C'est sa première participation. Est-ce que c'est une participation de taille, sachant qu'au niveau du calendrier, c'est aussi les 50 ans de l'indépendance ?
C'est les 50 ans de l'indépendance. Nous y serons associés en tant que force de la zone. Et c'est toujours un plaisir pour les forces armées de Nouvelle-Calédonie de participer aux cérémonies des États insulaires qui nous entourent. C'est une participation dont nous ne sommes pas contributeurs sur cette année. Mais nous avons très régulièrement des collaborations avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ils étaient présents lors d'un exercice que j'organisais en Nouvelle-Calédonie en avril dernier avec une section de génie qui a pu être déployée à Wallis et Futuna. Donc c'est aussi de belles opportunités pour nous de travailler avec les forces armées de Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Et le chef d'état-major des armées de Papouasie-Nouvelle-Guinée était là ce matin aussi à l'ouverture de Talisman Saber 2025 et se réjouissait avec les Australiens de l'extension de l'exercice à son territoire.
On disait que c'était un exercice conjoint entre l'Australie et les États-Unis, mais il y a 19 pays qui participent, plus de 30 000 personnes sur l'exercice 2025. Ça inclut la France qui, cette année, n'est pas observatrice. C'est quoi, du coup, le rôle de ces autres nations qui ne sont ni l'Australie ni les États-Unis?
Pour nous, c'est le déploiement d'environ 200 soldats qui viennent donc de Nouvelle-Calédonie dans les trois composantes terre, air, mer. Pour l'armée de terre, c'est pour la première fois des équipements blindés et des forces de reconnaissance essentiellement, et une petite base d'infanterie, ainsi que des troupes parachutistes qui seront parachutées d'un avion français qui vient lui aussi de Nouvelle-Calédonie. Donc, exercice à partir d'un avion français dans la nuit qui vient, mais aussi dans la semaine prochaine avec un avion américain. Et sur la composante maritime, c'est une frégate de surveillance qui participe à l'exercice. Frégate de surveillance qui a vocation à travailler dans la zone de responsabilité Pacifique Sud, mais qui est aussi assez régulièrement étend ses fonctions sur l'ensemble du Pacifique. Voilà pour la partie forces armées françaises locales.
En complément donc des forces qui arrivent de Nouvelle-Calédonie, donc il y a des unités qui arrivent de métropole et qui appartiennent à la division que je commande, la 3e division, qui est pour resituer un peu donc l'armée de terre. Aujourd'hui, il y a deux divisions, la première qui est plus focalisée sur la zone Europe et la 3e division que je commande donc sur la zone monde. Zone monde étant essentiellement Afrique, Moyen-Orient et la zone Indo-Pacifique. Donc, les personnels qui arrivent de métropole appartiennent à la 3e division. Nous, il y a environ 300 personnels, essentiellement des unités, une unité d'infanterie renforcée, mais quelques capacités spécifiques comme des groupes de commandos amphibies, donc pour la première fois qui participent. Et également, ce qui est pas beaucoup de, c'est pas du volume, mais c'est important. On a aussi des officiers insérés dans la chaîne de commandement de l'opération, ce qui est aussi une première par rapport à l'édition précédente de 2023. On était venu avec uniquement des unités qui participaient au niveau, bas niveau tactique, on veut dire. Donc là, on est plus inclus dans toute la chaîne de commandement de l'exercice.
Et les nations observatrices comme la Malaisie ou le Vietnam, par exemple, quel est leur rôle?
Je me permets de répondre parce qu'on est aussi parfois une nation observatrice dans certains autres exercices, pas d'ailleurs qu'en zone Indo-Pacifique, hein, ça peut être n'importe où, hein, en Afrique, en Europe, dans le Golfe. Donc le but, quand vous êtes nation observatrice, c'est que vous envoyez, ça peut être un petit détachement, quelques officiers. L'intérêt, c'est de voir comment se passe l'exercice dans la perspective d'y participer plus tard. C'est pas juste être présent, se contenter d'observer. C'est bien avec une idée de quel est l'intérêt, quelle est la possibilité pour notre pays ensuite d'y envoyer des moyens plus importants. Donc j'imagine, même si je ne veux pas me mettre à la place de ces nations, en Malaisie et ainsi de suite, qu'ils viennent voir dans la perspective d'y participer, j'imagine, dans le futur.
La Chine n'est pas nation partenaire, mais le gouvernement fédéral disait ce matin qu'ils n'éliminaient pas la possibilité qu'elle puisse observer d'un œil ce qui allait se passer pendant l'exercice 2025. Est-ce qu'il y a à craindre de cette observation ou est-ce que ça serait tout à fait normal et totalement probable?
Laissez
Bon,
Monsieur l'ambassadeur répondre.
La Chine n'est donc ni participante ni observatrice officielle de l'exercice Talisman Cyber. Après, c'est une nation de la zone dans laquelle elle déploie des moyens, donc je n'ai pas plus à ajouter que ce que les autorités australiennes ont ajouté, fondamentalement, qui est de constater que si une nation est présente dans la région et qu'elle déploie des moyens pour regarder ce qui se passe dans une région, voilà, ça vous appellerait ça observation. Mais en tout cas, je n'ai aucune information de nature particulière liée à l'opération d'aujourd'hui, Talisman Cyber.
Je profite que ce soit vous qui répondiez, monsieur l'ambassadeur, pour vous poser une autre question. Deux questions en une. Est-ce que c'est la plus grande édition à ce jour, la Talisman Cyber 2025? Et est-ce que les dernières éditions, donc 2023 et 2025, ont un goût différent depuis l'affaire des sous-marins?
Moi, je pense qu'il faut replacer le Talisman Cyber 2025 et la participation française dans l'ensemble de l'activité de coopération en matière de défense entre la France et l'Australie. Nous participons chaque année à des exercices internationaux entre France et Australie, qu'ils soient destinés à des répétitions et d'exercices liés à des crises, des désastres naturels. C'est le cas de Croix du Sud, et donc le général Latil est beaucoup mieux placé que moi pour en parler, qui réunit les forces du Pacifique, mais pas que, pour travailler et s'entraîner à la survenance d'un événement climatique majeur qui a un impact fort dans la zone, et il y en a beaucoup. C'est aussi, comme nous l'avions fait l'an dernier avec l'opération Pitch Black, qui était là en fait un exercice conjoint avec l'armée de l'air française et l'armée de l'air de nombreux pays européens, comme de nombreux pays de la zone et aussi des Américains. Donc en fait, j'allais dire, pour être bien préparé, il faut bien s'entraîner. Et donc les exercices avec les partenaires, dont fait partie l'Australie, sont à la fois fréquents et quand ils gagnent en grande dimension, bah, tout le monde y apprend beaucoup plus.
Si on rentre maintenant un peu plus dans le concret de comment va se dérouler cette édition 2025, concrètement, quel est l'objectif de cet exercice qui a lieu tous les 2 ans?
L'objectif pour nous, il est double. Le premier, il est d'apprendre et d'améliorer notre interopérabilité avec nos partenaires. Donc, je vous l'ai dit, on va sauter d'avions français, mais on va aussi sauter d'avions américains. Le général Lausanne nous disait qu'on était aussi intégré dans l'ensemble de l'état-major. Donc, ça nous permet d'apprendre les fonctionnements, les spécificités de cette zone. En Europe, on a un cadre qui est assez structuré. C'est l'OTAN. C'est pas le cas dans le Pacifique. Donc, on doit encore progresser sur ces sujets-là. Et le deuxième, c'est aussi d'être visible, d'être vu comme une force dans le Pacifique qui a un rôle à jouer. Et c'est aussi le message qu'on veut donner en étant ici à double titre, par les forces déjà présentes dans le Pacifique que je représente, mais aussi par les forces qui viennent de métropole, avec un challenge que vous pourra vous décrire le général Lausanne, parce que se déployer à 15-17 000 kilomètres, c'est un vrai défi logistique.
Vous voulez nous parler de ce challenge, général Lausanne?
Pour rebondir aussi sur ce qu'a dit le général Latil, en fait, quel que soit le thème, le déroulement de l'exercice, quand c'est des exercices interalliés ou qu'il se passe, quelle que soit la région, l'objectif est effectivement toujours le même, travailler l'interopérabilité entre toutes ces armes. C'est à la fois technique pour que nos moyens de communication arrivent à se parler, on puisse échanger de la donnée, mais c'est également la manière dont on manœuvre, c'est-à-dire on n'a pas les mêmes doctrines. Donc, quel que soit le thème, le déroulé de l'exercice, c'est toujours ça l'objectif, où qu'on soit, c'est d'apprendre à travailler ensemble, puisque maintenant, on agit le plus souvent au sein de coalitions. Et donc, pour pouvoir agir le jour J en coalition, il faut s'être entraîné avant. On peut pas s'engager avec des nations avec lesquelles on n'a jamais travaillé sur un théâtre d'opération réel, bien évidemment. Après, sur l'affaire de la projection, alors l'armée française a quand même des vrais savoir-faire en termes de projection. C'est certainement après les États-Unis, l'armée occidentale ou des nations alliées qui est la plus habituée à se projeter sur un théâtre d'opération loin de la métropole. Donc on a l'habitude. C'est vrai que là, les distances sont particulièrement élevées puisqu'on est à 17 000 kilomètres. Vous rajoutez les contraintes d'entrée sur le territoire. Donc tout ça fait que même pour projeter un détachement de 300 personnes de la métropole, c'est plus d'un an de planification et une anticipation importante pour faire embarquer nos matériels qui sont partis de Toulon il y a 3 mois. J'ai pas les dates exactes. Voilà. Donc c'est des choses qu'on sait faire, mais c'est un peu plus compliqué que d'habitude parce que là, il y a la contrainte de la distance et de règles spécifiques pour rentrer des équipements sur le territoire australien.
Vous parliez de savoir-faire déjà ancré, déjà acté, mais est-ce que là, vous allez tester également des nouvelles technologies?
Pas particulièrement, c'est enfin, du côté des unités qui arrivent de France, non, on est avec nos équipements modernes, on va pas, enfin, qu'on maîtrise, qui sont issus de pour tout ce qui est équipement individuel, matériel de communication du programme Scorpion, qui est le gros programme de transformation de l'armée de terre. Donc, on ne teste pas à proprement parler de nouvelles technologies qu'on n'aurait pas utilisées déjà en exercice.
Non, mais pour la première fois, on va déployer des drones, par exemple, enfin des drones de taille significative en Australie. C'était le cas jusqu'à présent, on savait faire en Nouvelle-Calédonie. C'est la première fois qu'on fait participer ce type d'équipement. Mais c'est pas un test. Ces tests ont déjà été conduits en métropole, validés en Afrique, testés à nouveau en Nouvelle-Calédonie pour être sûr que tout ça fonctionne bien dans l'hémisphère sud avant de les engager en Australie.
Monsieur l'ambassadeur, je pense que mes 2 prochaines questions, elles sont plus pour vous. Est-ce que ces exercices militaires sont compatibles avec la préservation de la faune et la flore endémique à l'Australie?
Je crois que nos amis australiens sont extrêmement précautionneux de la préservation de la faune et de la flore et sur les protocoles de biosécurité. Même dans ces opérations-là, les Australiens sont extrêmement précautionneux et font vraiment attention à ce qu'il y ait en termes de biosécurité, mais aussi en termes d'impact pour que leur nature et leur pays soient préservés.
Je peux vous donner un petit exemple sur la Nouvelle-Calédonie. Je disais, c'est la première fois qu'on déploie des blindés en en les passant sur des opérations de nettoyage considérables. Un agent des services sanitaires australiens est venu en Nouvelle-Calédonie pour constater l'embarquement dans des containers isolés de nos équipements. Ils ont été embarqués, isolés, scellés et mis sur un bateau et décellés à l'arrivée sur le territoire australien. Donc, de manière à ce qu'il n'y ait pas un champignon, un insecte pour perturber la biodiversité de l'Australie. Donc, c'est très, très rigoureux. La même chose pour nos parachutistes. J'évoquais les sous-marins. Ils ont été inspectés, mis sous scellés après l'inspection qui a été faite en Nouvelle-Calédonie.
Monsieur l'ambassadeur, je vous donne le mot de la fin.
La coopération militaire qui est importante entre la France et l'Australie, elle s'inscrit dans la feuille de route que nous a fixée le président de la République sur sa stratégie Indo-Pacifique, qu'il est venu réexpliquer en personne au Shangri-La Dialogue à Singapour en mai et qui a eu un discours extrêmement fort et important sur ce que veut dire être un État indépendant dans le monde et dans la région, et qu'avec l'Australie, on décline aussi cette stratégie dans notre feuille de route bilatérale. Et qu'on est pleinement en fait dans la déclinaison de ce que le président de la République, Emmanuel Macron, et le Premier ministre Anthony Albanese avaient commencé à sceller dès 2022 lors de leur première rencontre.
Pour vous le traduire concrètement sur le terrain, je termine 2 ans de commandement. J'ai dû venir une vingtaine de fois en Australie. Je pense que j'ai rencontré 5 ou 6 fois le chef d'état-major de l'armée de terre australienne, par exemple. J'ai dans mon état-major une officier, lieutenant-colonel de l'armée de l'air australienne, avec qui nous partageons l'ensemble de nos informations. On a des officiers insérés dans les états-majors australiens. Ici, on a des Australiens insérés comme officiers de liaison à Paris dans nos états-majors. Il y a une collaboration permanente. Ça a commencé de manière très dense avec le sommet des ministres, le SPDMM, sommet des ministres du Pacifique Sud-Ouest qui s'est tenu à Nouméa en décembre 2023, où les ministres des forces armées du Pacifique Sud se sont réunis. La présence de Monsieur Lecornu, de Monsieur Marles, évidemment, ça s'est traduit à travers différents exercices. On évoquait Croix du Sud avec une participation australienne, armée de terre, armée de l'air, marine. Précédemment, on a conduit des exercices en Nouvelle-Calédonie avec des forces terrestres australiennes. Moi, j'ai envoyé à 3 reprises des troupes en Australie dans des exercices beaucoup moins visibles en bilatéral. Je suis binommé, moi, Forces armées Nouvelle-Calédonie avec la 7e brigade australienne. Donc, c'est une collaboration qui est permanente, très visible sur Talisman Sabre. On veut la montrer visible, mais elle est quasi, quasi quotidienne.
Général Latil, merci beaucoup. On était également en présence de Général Ozanne et Monsieur l'ambassadeur de France en Australie, Pierre-André Humbert. Merci, messieurs.
Merci. Merci
Merci.
beaucoup.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Mondos habillés de rigueur, intrigues enflammées.
Comme si l'on pleuvait.
Devant ma porte, prétendants et jeunes premiers.
Comme si l'on pleuvait.
Comme s'il en pleuvait, c'était Meira Andrade sur les ondes de Radio SBS. Nous avons interviewé Karine Vézina et André Caddy. Ils sont les réalisateurs du film d'animation Hola Frida, qui est en sélection officielle au Festival international du film pour enfants en Australie. Et ce festival touche à sa fin demain. Ils nous parlent de ce film poétique pour enfants, mais aussi pour adultes.
Merci d'écouter SBS French. Rendez-vous sur notre site sbs.com.au/french.
À l'occasion du Festival international du film pour enfants qui se déroule en Australie jusqu'au 20 juillet, je suis en ligne avec André Caddy et Karine Vézina. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Vous êtes les réalisateurs du film Hola Frida, qui est en sélection officielle. Et Hola Frida, c'est un film sur l'enfance de Frida Kahlo. Pourquoi avoir choisi ce thème et pourquoi l'avoir abordé par l'angle de l'enfance?
Ben, déjà parce qu'il y a très peu de choses sur son enfance, donc c'était intéressant d'exploiter cette portion-là de sa vie qu'on connaissait très peu, que les gens connaissent très peu.
Ouais, puis en lisant ses lettres, on s'est rendu compte assez vite quand même qu'il y a beaucoup de choses qui venaient de cette période où elle a eu la polio à 6 ans. Puis elle-même, dans ses lettres, dans son journal, en parle beaucoup de cette période, alors que dans les différentes biographies, même dans les documentaires qu'on a regardés, ils en parlent très très peu, alors que beaucoup de choses ont commencé là. Les liens avec sa mère, les liens avec ses racines, même la base politique est vraiment a commencé pendant qu'il y avait vraiment les affrontements avec les Apatistes puis à Mexico. Donc c'est vraiment une période qui est intéressante puis qui est rarement exploitée, oui, pour
pour Frida.
Vous l'avez un petit peu abordé, mais si on parle de Frida Kahlo plus en profondeur, donc c'était une petite fille qui a été à 6 ans atteinte de poliomyélite, c'est sa jambe droite qui était atrophiée. Elle a du coup eu un surnom terrible hein, de la part de ses camarades de classe, Frida la Korra, c'est Frida la boiteuse. Est-ce que ce dessin animé pour vous, c'est une ode à la différence?
C'est surtout un ode à l'authenticité, d'assumer qui on est en totalité, peu importe ce qui se passe, peu importe si ça plaît aux autres ou non, mais je pense qu'être capable d'assumer ce qu'on est dans nos défauts comme dans nos qualités, c'est plus le message central du film, je pense.
Toutes ces interactions avec l'ami imaginaire amenaient un petit peu ça. Chaque passage amène ça qui, pour un enfant, peut-être ne va pas faire une énorme différence, mais pour nous, c'est ça. La première fois qu'elle y passe, elle apprend, là, elle découvre un peu son monde imaginaire. Mais après, quand elle est intimidée, c'est des passages assez courts dans ce monde-là, mais où son amie lui fait, parce que c'est vraiment des phrases qu'on a lues dans les lettres. Quand elle disait, ah, il y a un moment, il y a un jour où là, ils ont été trop loin, ils m'ont insulté, j'ai pleuré. Donc, à partir de ce jour-là, j'ai décidé que plus jamais je m'intéresserai à ce qu'on pense de moi, puis que j'allais juste m'intéresser aux gens que j'aime, moi, personnellement, puis les autres, je m'en fous complètement. Donc, c'est vraiment dans cette période qu'elle a décidé beaucoup ça, puis c'est effectivement, elle s'est fait insulter, intimider, puis je pense que ça a forgé son caractère, puis sa mère l'a beaucoup aidé aussi là-dedans, sa mère qui était assez forte, assez rude, puis ça a commencé, je pense, cette période-là.
Vous avez assez bien réussi à, dans ce film, initier à la résilience, vous le disiez, l'imagination, la créativité, la positivité, l'art. Est-ce que vous pensez que, puisque c'est un dessin animé, tous ces messages sont accessibles pour un très jeune public?
Oui, absolument. Je pense que les jeunes, on sous-estime souvent ce que les jeunes comprennent de la réalité qui les entoure. Puis je pense qu'il y a beaucoup de choses qui les touchent beaucoup plus qu'on pense. Puis c'était pas vraiment un enjeu. Je pense que en plus dans un dessin animé, il y a beaucoup plus de choses qui passent que dans un film en real. Fait que c'est comme ça marche bien.
Ouais, puis en général, on essaie de faire des films à hauteur d'enfants, mais pas spécialement pour enfants. Nous, l'idéal, c'est que le parent ou un adulte ou un grand frère.
C'est ce que je voulais vous
soit là.
demander. Est-ce qu'il y a un
Oui.
autre niveau de lecture pour les adultes?
Oui, bah déjà dans Dounia, c'est un peu ce qu'on avait fait. C'est un film qui était dur pour les enfants de 5-6 ans, mais qui, quand ils étaient avec leurs parents, qui étaient là pour leur expliquer c'était quoi la guerre, qu'est-ce qui se passait, tout ça. Puis c'est drôle parce que dans Dounia, on les voyait réagir toujours au même moment. Comme quand le petit canari mourait, tout ça. Puis là, c'est pareil. Là. Selon les âges, à 4-5 ans, là, c'est quand pendant l'ellipse, à un moment, ils se rendent compte que ça y est, Chiquita est morte de vieillesse. À chaque fois, les enfants se tournent vers les parents. Là. Elle est morte. Puis quand je suis dans la salle, des fois, les enfants se tournent vers moi, mais offusqués quand on a tué
Comment
Chiquita.
avez-vous osé?
Mais c'est drôle parce que on l'a présenté vraiment partout. On l'a présenté en premier au Mexique, dans la Casa Azul directement. Donc, en premier aux Mexicains. On la présente aussi à Meknès, au Maroc. On a présenté vraiment des gens très, très différents. Puis c'est toujours la même chose. C'est beaucoup, beaucoup les mamans qui vont avec leur petite fille ou leur fils voir le film. Puis c'est drôle parce que c'est vraiment souvent des questions dans les deux sens. L'enfant pose beaucoup de questions aux parents. Mais moi, j'ai beaucoup vu à Meknès, notamment là au Maroc, des parents qui demandaient à l'enfant parce qu'au bout d'un temps, ils avaient perdu le fil sur le monde imaginaire. Puis l'enfant, en général, là, ils comprennent tout, puis ils répondent, oh, non, non, c'est ça qui se passe. Puis c'est drôle à voir parce que ça arrive quasiment tout le temps, là.
C'est assez magique, du coup, c'est bien au-delà qu'un simple dessin animé, bien sûr. Il y a même un partenariat pour lutter contre la discrimination, c'est avec Handicap International. Est-ce que c'était votre but dès le début que ce soit au-delà qu'un simple film d'animation de 82 minutes?
En fait, c'est que c'est obligé qu'on en parle. C'est pas qu'on a décidé de parler de handicap, mais comme ça fait tellement partie de sa vie, elle a tellement eu de problèmes de santé, de douleurs au dos, elle a porté des corsets, trucs. Fait que, tu sais, tout ça, ça fait tellement partie d'elle. On peut pas dissocier de son histoire cette partie-là de sa vie. Donc, ça allait de soi qu'on allait en parler, mais c'était pas l'objectif premier d'en parler, mais on peut pas le passer à côté.
Ben, surtout qu'il y a des gens qui disent, en plus, oh, j'adore pas les peintures de Frida, mais c'est vraiment le personnage que j'aime. L'idée, c'était ça, un peu, c'est de faire un film, même pour les gens qui aiment pas spécialement la peinture, ou quoi, puis qui vont juste avoir envie de la découvrir plus tard.
Oui, d'ailleurs, le film, vous l'avez vraiment concentré sur la personnalité de Frida Kahlo et moins sur l'artiste ou même son couple une fois adulte.
Ouais, surtout pas sur son couple, je pense que c'est la partie qu'on aimait le moins de son histoire qui était. Moins, en tout cas. Mais oui, non, pour tout le reste, je pense que c'est parce que Frida, ça devient un modèle, c'est une personnalité qui est très moderne malgré tout, c'est une personnalité qui rejoint beaucoup de gens par toutes les difficultés qu'elle a passées, puis ça devient un modèle d'authenticité, puis de persévérance, de résilience, de tout ça. Donc, c'est vraiment universel comme sujet.
Puis la famille nous a dit, quand on l'a présenté justement à Koyoakam, ils ont dit, oh, vous n'avez pas fait un film juste sur Frida, vous avez fait un film sur notre famille, sur tout le monde, puis sur ce Mexique de ces années-là qui était passionnant, avec des courants politiques, des mouvements sociaux, des bouleversements technologiques et un retour aussi aux racines culturelles. Donc c'est vraiment une période qui était folle. Puis on y a été là, 2 fois à Mexico. Puis c'est vrai que c'est une ville incroyable. Quand on en est revenu la première fois, on s'est dit, oh, la barre est haute là, parce que en plus de Frida, il y a tout ça qu'il va falloir mettre dans le film.
Justement, vous avez eu l'aval de la nièce de Frida Kahlo, mais aussi de la directrice du musée Frida Kahlo. Toutes les deux ont validé le film, l'ont aimé. Est-ce que c'est une consécration quand on est réalisateur?
Oui.
C'est l'une des rares fois où on était stressé. Moi, on le présente devant des grosses salles, des fois. Puis en général, on aime défendre notre film, on en parle, mais le présenter dans la Casa Azul, juste devant la famille, là, c'est. Et à Morelia aussi, qui est un gros festival, oui, c'était une pression parce que ils auraient très bien pu nous dire, mais de quel droit vous l'avez fait, ou on pense pas que vous l'avez fait avec toute l'authenticité qu'on aurait aimé. Donc oui, non, c'était un stress. Puis c'est une fierté que justement que Perla du musée nous dise, mais faites-le. Justement, on y a été 1 an avant de faire le film, juste avant de finir l'écriture, pour voir avec eux si c'était correct. On a dit, si c'est pas correct, si vous estimez que ça se fait pas, ou si vous savez qu'il y a un projet qui est en cours, on va laisser faire, on a beaucoup d'histoires à raconter, donc on pourra passer à une autre histoire. Puis là, ils nous ont dit, non, personne n'en parle. C'est peut-être parce qu'elle est trop grande, mais personne n'en parle, personne parle de son enfance. Donc ils nous ont dit, faites-le vraiment version mexicaine, double au Mexique, puis on va le passer dans les écoles, puis on va pouvoir se réapproprier ce trésor qu'est Frida Kahlo.
C'est très intéressant d'ailleurs qu'il soit diffusé dans les écoles parce que on a parlé de la maladie, de la différence, mais vous abordez aussi le thème du harcèlement scolaire, qui est un thème assez difficile.
Et tout à fait d'actualité. Je pense qu'à travers les époques, ça a toujours été, ça a toujours existé. Donc, faut en parler, trouver des solutions, des façons de l'aborder, des façons de réagir à cette problématique-là. Donc, non, c'est super important d'en parler, je pense.
Ben surtout, on a tellement été déçus par certains films, justement, sur le harcèlement, où on en parle encore 5 ans plus tard, des films qu'on a vus, où il n'y avait pas de morale à la fin, où il n'y avait pas de solution. Ça donnait l'impression que, OK, on ne pouvait pas s'en sortir. Alors que là, on a essayé à la fois, Frida, elle y va par le dialogue, en tendant la main à un moment, Raphaël, en essayant de comprendre, mais qu'est-ce qui lui arrive pour qu'il ait envie d'être méchant. On y va par la parole avec les parents. C'est important de faire la scène dans la cuisine où les parents lui disent, OK, c'est correct, apparemment, t'es pas traumatisé, mais tu nous en parles quand même. On voulait quand même que l'enfant se rende compte que si lui, il n'avait pas la force d'une Frida d'être capable d'assumer ça, il fallait absolument qu'il en parle à un adulte. Mais on voit aussi comment ses amis ont réagi dans la cour, comment Tonito, il réagit. Donc l'idée, c'était un peu de montrer qu'il y a beaucoup de façons d'en s'en sortir, mais avant tout, de commencer par le dialogue, de s'assurer que l'enfant qui lui-même intimide n'est pas lui-même en souffrance.
Manifestement, votre pari d'aborder des sujets difficiles et aussi d'aborder la vie de Frida Kahlo par son enfance a réussi, a été un pari gagnant puisque votre film est en sélection officielle dans plus d'une vingtaine de festivals, dont on le rappelle le festival en Australie, le festival international du film pour enfants. Je vous ai déjà posé la question de la consécration en tant que réalisateur, mais est-ce que c'est une fierté pour vous, toutes ces nominations, ou est-ce que seule la récompense compte, sachant que vous avez déjà été récompensé dans certains de ces festivals?
Bon, je pense que juste être nominée, c'est intéressant, mais de toute façon, je pense que le plus important, c'est pas les prix, c'est d'avoir des enfants qui viennent nous voir et qui nous disent ah, moi maintenant, je m'identifie à Frida parce que moi aussi j'ai un handicap, tout ça m'a fait du bien. Je pense que c'est le plus important, c'est que si on est capable de faire connaître cette figure-là, de faire connaître la façon que tu peux vivre ta personne par des enfants qui apprennent à travers ça, c'est vraiment intéressant. Puis voir des enfants qui dessinent des dessins de Frida, des choses comme ça, je trouve que c'est encore plus valorisant que n'importe quel prix qu'on peut avoir.
Oui, non, c'est ça, c'est les nominations dans les festivals. Le simple fait qu'ils passent dans les festivals, même quand c'est des festivals où il n'y a pas de prix, de savoir que justement des enfants australiens vont regarder, des gens en Afrique du Nord, au Maghreb, en Afrique noire, un peu partout,
Donc, de savoir qu'il va être vu en espagnol, en mexicain, ça, c'est notre plaisir, là. Après, les prix, c'est toujours plaisant parce que, surtout quand c'est donné par des professionnels, c'est bien de savoir qu'ils ont compris ce message-là, puis que le film, ils l'ont apprécié. Mais c'est sûr que sachant, c'est vraiment l'accueil des enfants qui est vraiment important, là.
La reconnaissance des professionnels, mais aussi du public qui est quand même la première cible de votre travail. André, Karine, Ola Frida, ce n'est pas votre première collaboration. Vous l'avez un petit peu abordé tout à l'heure, mais vous aviez déjà travaillé ensemble sur Dounia et la princesse d'Alep. Est-ce que vous avez d'autres projets pour la suite
Seulement.
Oui, on a
dont vous
beaucoup,
pouvez nous
mais très
parler?
différents. Il y en a un qui nous tient à cœur, qui est un peu ce qu'on a fait pour Frida, sauf que cette fois, c'est pour une peintre qui n'a pas eu la chance d'être redécouverte comme Frida. Parce que Frida était redécouverte sur le tard. Il y a eu un 30 ans où elle était tombée dans l'oubli, puis c'est dans les années 70 qu'elle est revenue à la mode, puis que les féministes se sont réappropriées. Mais là, on est tombé sur l'histoire d'une peintre algérienne qui a vécu un peu la même chose, Baïa, puis qui est partie à Paris, qui est devenue l'égérie, la muse de Picasso, de beaucoup, qui était une peintre incroyable, qui a amené des couleurs que personne ne connaissait, puis qui est repartie en Algérie, puis qui est retombée dans l'anonymat total, puis qui a été obligée de se marier avec quelqu'un beaucoup plus âgé, puis qui, pour tout le reste de sa vie, a peint en noir et blanc, alors qu'avant ça, elle avait des couleurs incroyables. Et c'est une artiste incroyable. Puis quand j'étais à Meknès, au Maroc, justement, pour présenter Ola Frida, je tombais sur une jeune auteure algérienne qui, elle, commençait à écrire la vie parce qu'elle a été élevée dans le village de cette peintre. Donc, l'un de nos projets, ça va être ce projet-là.
Karine Vézina, André Cadi, merci beaucoup pour votre temps.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
Vous pouvez nous écouter quand vous le souhaitez. Téléchargez émissions, interviews et actualités à la demande. Visitez la page sbs.com.au/french.
C'était il y a 50 ans déjà un Daniel Balavoine, Dieu que l'amour est triste. On va parler économie à présent avec Nicolas Perchpitch. D'abord le premier sujet sur le fait que le Trésor a accidentellement divulgué des détails de conseils donnés au gouvernement, notamment des doutes sur l'objectif du Parti travailliste en matière de logement. Nicolas Perchpitch nous raconte tout et il nous parle également de cette étude qui prouve qu'un jeune travailleur sur trois déclare être exploité financièrement par son employeur. Un chiffre qui fait froid dans le dos. C'est la chronique économie de la semaine. On est comme d'habitude avec Nicolas Perpich. Bonjour Nicolas.
Bonjour Marianne.
Vous allez commencer par nous parler de cette fuite d'informations économiques sensibles. Hein. C'était cette semaine de la trésorerie à un journaliste. Racontez-nous.
Oui, tout à fait. Donc c'est assez rare et un peu gênant pour la trésorerie. Et pour le gouvernement aussi, en fait, mais c'était une demande d'information par l'ABC qui est au centre de tout ça. Et en fait, ce qui s'était passé, c'est que l'ABC avait demandé de l'information à la trésorerie et dans sa réponse, la trésorerie a ajouté par erreur des conseils économiques que la trésorerie avait donnés au gouvernement. Donc précisément, ils avaient dit que ça serait nécessaire d'augmenter les impôts et aussi de couper les dépenses pour régler les problèmes fiscaux budgétaires. Et aussi, ils ont ajouté que la promesse que le gouvernement avait faite de construire 1,2 million de nouvelles maisons dans 5 années ne serait pas possible. Donc ça, c'est de
l'information
qui
est... On en
était...
parlait la semaine dernière, justement, qu'on se doutait qu'ils n'allaient pas y arriver, mais là, c'est confirmé par accident.
Exactement. Donc ça, c'est très gênant pour le gouvernement et... Bon, alors bien sûr, cette information, ça précise aussi certaines choses. Ils n'ont pas dit quel impôt il fallait augmenter. Ils ont dit, par exemple, que ça pourrait être des taxes indirectes, comme la superannuation. Mais depuis, bien sûr, les journalistes sont allés poser des questions au trésorier Jim Chalmers pour dire, ben voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez augmenté les impôts? Est-ce que votre idée de 1,2 million de maisons est complètement impossible? C'est évident. Et lui, il a dit, bah, je suis assez relax dans tout ça. Oui, j'avais parlé un peu de superannuation, mais bof, il était un peu comme si je levais les épaules, un peu comme si c'était vraiment pas grand-chose.
Très nonchalant.
Très, très nonchalant. Par rapport à les 1,2 million de maisons, il a dit oui, écoute, c'est vrai, c'est très difficile, il y a beaucoup de travail à faire, il y a encore beaucoup que nous devons essayer d'autres choses pour vraiment y arriver. Donc là, quand même, il accepte un peu que ça va être très difficile parce que là, c'est dans 5 ans, c'est dans vraiment très peu de temps. Donc, je crois que ce qui va se passer là, c'est que tout doucement, le gouvernement va changer son plan, va changer d'avis à cette question et on verra que, en fait, cette idée de 1,2 million de maisons va doucement disparaître.
Merci Nicolas. On va aborder un deuxième sujet. C'est un chiffre qui fait froid dans le dos. Hein. Un tiers des jeunes travailleurs en dessous de 30 ans disent qu'ils ont été exploités au travail.
Ouais, vraiment, vraiment, tout à fait. En fait, ça, c'est une étude par la Melbourne Law School. Et ils ont trouvé qu'un tiers se sentent exploités. 38% sont sous-payés. Ils ne sont pas correctement payés. Il y en a qui sont vraiment pas du tout payés pour une partie de leur travail. Il y en a à peu près 36% qui ont été empêchés de prendre des pauses au travail, des breaks. Il y en a d'autres qui ont fait peur de poser plainte aussi. Ça, c'est vraiment un problème parce que c'est une chose d'être exploité, mais après, si on peut poser plainte et en parler avec quelqu'un, que ça soit adressé, que ça soit corrigé, ça, c'est déjà quelque chose. Mais là, il y a à peu près seulement un tiers de ces gens qui vont chercher de l'aide au Fair Work Ombudsman ou avec les syndicats. Et donc ça montre qu'il y a vraiment un problème avec la culture au travail, où ils ont peur de parler parce qu'ils savent qu'il y aura des conséquences. Et donc ça, c'est vraiment très grave pour ces jeunes gens-là qui doivent penser que si ils disent quoi que ce soit, eh ben voilà, ça y est. Ils vont perdre leur job, ils vont peut-être pas avoir de promotion, donc ils vont c'est pour ça qu'ils se taisent. Et donc ça montre que même qu'on pense que on a beaucoup avancé dans les lois du travail et les droits au travail, en fait dans un certain sens, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas tellement changé ou pas changé assez.
Et il est comment le marché du travail en Australie? Est-ce que ces jeunes qui se sentent exploités pourraient tout simplement démissionner et trouver assez facilement un autre travail?
Bah, c'est sûr que le taux de chômage en Australie est très, très, très bas. Logiquement, oui, mais à mon avis, ça dépend aussi dans quel genre de travail on fait aussi. Les gens doivent s'inquiéter que s'ils démissionnent ou s'ils portent plainte quelque part, après... les gens vont parler d'eux, il y aura une réputation, ils auront du mal à trouver du travail ailleurs. Mais c'est vrai qu'il y a le taux de chômage est assez bas en Australie, donc logiquement oui, mais en réalité, c'est pas sûr.
C'est pas sûr et pas si simple. Merci beaucoup Nicolas Perpich.
Merci beaucoup.
Chapeau de paille, des taches plein sa blouse et sa bavière. Vibre la lumière.
On a entendu Daniel Balavoine et bien à présent on entend France Gall, sa grande amie qui a très 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 mal vécu sa disparition. France Gall avec cette chanson Cézanne Pain. C'est la fin de cette émission, messieurs, dames. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Votre prochain rendez-vous avec le français, c'est demain, même fréquence, même heure. Je vous souhaite d'ici là de passer un très beau samedi après-midi. Au revoir, messieurs, dames.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.